C'est la bande originale, soyez les bienvenus, bravo. Ravis de vous accueillir avec Leïla Gadeau-Boudaïbi.
Bonjour à tous.
Tom Villa.
Bonjour.
Frédéric Sigrist.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Et notre invité, Monsieur Laurent Godet.
Bonjour.
Qui signe de sang et de lumière chez Actes Sud. Merci Laurent de venir à ce micro.
Merci à vous.
Je vous sens en forme, ça tombe bien, nous aussi.
En plus, un lundi de Pâques.
On est ravis.
Beaucoup d'absents.
Oui, pour la chasse aux œufs, oui. La fameuse.
On aurait dû enregistrer, hein, j'aurais bien
pu. Mais c'est dommage, on fait jamais ça.
Non,
jamais.
Tom Villa, je crains que vous n'ayez pas vraiment compris. Mais c'est un peu comme ça. Oui, mais c'est souvent le cas. Pourquoi Laurent Godet, notre invité?
D'après vous, pourquoi? Pourquoi la culture, quand même. Après concours des lycéens, concours 2004. Par contre, à mon avis, vous êtes bois d'étage. Trapenard, c'est à l'étage du dessous.
Quel rapport avec la culture, Trapenard?
L'illusion, en tout cas.
Voilà.
J'adore ce bruit.
D'ailleurs, c'est sur de vos jingles.
Là, on se le dit, ce matin, c'est rendez-vous inter inconnu, mais pour tout le monde. Voilà. Nous, parce que vous savez faire des rimes et des mots de plus de trois syllabes. Et puis vous, parce que pour une brochette comme ça, vous devez pas en voir souvent, à part de l'autre côté du bureau au Salon du Livre. Donc, Laurent Godet, bienvenue dans Rendez-vous en France Inter Inconnue. Joli. Laurent, nous partons au fin fond du 16e arrondissement. Dans un lieu qui sent la moquette, le RTT et l'amiante, il vous a fallu 45 minutes pour venir jusqu'à nous après un long voyage en métro, un changement de tram et deux de RER. Bienvenue dans la tribu des crétinos. Je vous présente le chef de tribu, Nagios, qui très souvent se balade le marque-page à l'air.
T'aurais pu faire Nagos, le marque-page à l'air, mais ça va pas.
Bon. Laissez-moi vous présenter
pas ça qui t'a choqué en premier.
j'ai pas compris.
Oui, c'est vrai.
Laissez-moi vous présenter Laurent le Morinos. Comme vous pourrez le voir à son poil blanc, c'est le plus ancien de la tribu. Certains disent qu'il était déjà là à l'inauguration du camp en 63. C'est le seul à avoir sa grotte personnelle. Non pas par ancienneté, mais pour des raisons d'hygiène. Il a déjà connu 5 chefs de tribus différents. Le Bernus, à Crête Frisée. La Giordanos, à Passage Éclair. Le Lopezis, à Passage Encore Plus Éclair. Et le Manoukianos, à Mèche-Grasse. Voici le Sigristus. Ne l'approchez pas de trop près, car le matin, tant qu'il n'a pas englouti ses deux stagiaires, il n'est pas vraiment le casse. Je vous présente la Cadourus Boudadis, à Brushing Évaporé. C'est notre seule femelle de la tribu. Voilà. Malheureusement, elle ne sait pas faire à manger. En revanche...
C'est vrai, en plus.
En revanche, vous devriez bien vous entendre avec elle parce que c'est elle qui connaît le plus de choses dans la tribu. Il y a aussi le Lornacus, à moustache disparus. C'est notre barde. Voilà, il est capable de nous jouer n'importe quelle ritournelle de l'Antiquité à sa naissance, le Moyen-Âge. Et pour finir, moi, Tom Villus, je ferai honneur de office de traducteur. Voilà, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. N'hésitez pas à demander à Morinos, hein, parce que grâce à son ancienneté sur le camp, il a une clé qui permet d'ouvrir toutes les portes de ce camp, une clé qu'on appelle un pied de biche. Voilà. Ravi de vous accueillir ici. J'espère que vous avez pris des vivres, car le distributeur du village ne délivre que des raiders, des balistos et du tang. À mon avis, ça sent la tourista. Je vous souhaite un bon séjour parmi nous.
Très bien, bravo.
France Inter, Nagui, la bande originale.
Tout était parfait. Tout était parfait, à part les rimes.
Non, moi j'ai pas fait de rimes.
À part les rimes. Non, justement. Laurent Godet non plus.
Rangez votre marque-page.
Voilà, c'est ça qu'il faut préciser, parce que c'est de la poésie, oui, mais vous n'avez pas à chercher non plus à faire des alexandrins ou des rimes.
La versification.
Non, voilà. Non, c'est des vers libres et c'est de la poésie. En plus, c'est de la poésie assez narrative, ça raconte à chaque fois une petite histoire, c'est
exactement.
Des poèmes assez longs. Donc,
Alors, la définition d'un poème.
Oh non, ça je sais pas, moi.
La définition d'un poème.
En plus, il est tôt, là, je ne sais pas.
Bon, il est 11h.
Pourquoi Laurent vous a enseigné?
Pourquoi vous ne rentrez pas dans un... Oui, pourquoi ce ne sont pas des billets? Pourquoi ce n'est pas un journal? Pourquoi ce ne sont pas des pensées? Pourquoi avoir pris cette option littéraire?
Parce qu'en fait, je pense que c'est par rapport au... C'est des poèmes qui sont souvent nés de voyages. Et je pense que c'est très lié à ça, en fait. C'est l'envie d'essayer de saisir quelque chose de ce que j'ai pu vivre dans ces endroits-là.
Les appareils photos, vous savez.
Oui.
Bah, c'est un peu la même chose en fait, mais avec des mots, effectivement.
Ouais. Ouais,
c'est de capter quelque chose du ressenti aussi.
Avec donc. Beaucoup de sentiments, énormément de sentiments. Ouais. On peut avoir le sentiment, justement, en vous lisant que tous les malheurs du monde vous sont tombés dessus ou vous touchent quelque part, où qu'ils soient. Mais en tout cas, vous vous y intéressez. On en avait déjà parlé ici à ce micro. Alors, il faut dire que ce sont c'est un recueil de poésie à travers quelques années que vous aviez déjà publié dans différentes revues, agrémenté de malheureusement de nouveaux textes parce que nouveaux drames. Il fallait, même s'il y a quelques rayons de lumière, il fallait que vous évoquiez notamment, je pense aux attentats de Paris, votre sentiment, votre ressenti.
Oui, c'est le dernier poème, ouais. Effectivement. Oui. C'est pas tant sur, enfin si, c'est sur les attentats, vous avez raison, mais c'est aussi sur ce que du coup ça...
Une sorte de chaos en tout cas que ça...
Oui, mais ce que ça fait naître en nous, je pense, ça a été peut-être une des seules, c'est difficile de dire ça comme ça, mais une des seules vertus de cette période difficile, qui dure encore d'ailleurs, et tragique, c'est de nous poser simplement la question sur quoi on n'a rien envie de lâcher en fait. Quelles sont les choses, moi j'aime pas tellement le mot valeur, mais quels sont les socles de nos vies, ce sur quoi on tient, ce qui est fondamental.
Ce qui nous réunit, ce qui nous fait vivre.
Ouais, donc moi j'essaie de répondre à ma manière à moi dans ce poème-là.
Et vous dressez une typologie dans Le Serment de Paris, qui est donc ce dernier poème du recueil, de toutes les personnes que nous sommes. J'ai trouvé ça très beau parce que ça s'adresse à chacun d'entre nous. On est héritier d'auteurs, d'Hugo, de Voltaire. On peut être des femmes libres aux cheveux lâchés, on peut être des mères, on peut être des hommes. Et ainsi, vous parvenez, par votre poésie, à nous faire appartenir à un tout et à reconstituer. Et je trouve que c'est la puissance aussi poétique de la création poétique, c'est de nous faire appartenir à un ensemble qui avait été malmené par les événements, par les attentats.
Mais tant mieux. Non, mais c'est on parle de poésie depuis tout à l'heure. C'est vrai que c'est le truc qui me rend toujours un peu triste avec ce mot-là, c'est que dès qu'on le prononce, on a l'impression qu'on va être face à des gens qui sont dans une tour d'ivoire et qui utilisent des mots compliqués. Je pense que la grande vertu, la belle poésie, celle qui moi m'a toujours touché, c'est celle qui s'adressait au peuple, aux gens, à nous tous, au plus grand nombre. Je pense qu'en France, il y a eu un petit divorce qui s'est fait avec la dernière génération qui a réussi à faire ça. C'est certainement celle de Aragon, Éluard, où les gens connaissaient ces poèmes-là, où la chanson a été aussi très, très utile pour ça.
Oui,
bien sûr. Après, c'est vrai que ça s'est un petit peu écarté. Et moi, j'ai envie de parler à tout le monde.
Ces textes-là vont avoir du mal à se retrouver en chanson.
Oui.
En tout cas, parce que
avec le temps va, tout va, c'est pas très gai non plus.
Non, je parlais pas de gaieté, je parlais de structure.
Oui.
La structure ne s'y prête pas. Il n'y a pas de refrain, il n'y a pas de gimmick, entre guillemets, qui reviennent régulièrement d'une manière lancinante. Il y a ces drames qui nous frappent et cette histoire, l'histoire même de l'humanité, puisqu'il y a aussi bien l'esclavage que l'immigration, que les attentats, tout y est. Vous avez choisi de sang et de lumière, mais je ne sais pas si la lumière, même s'il y en a quelques-unes, en tout cas quelques lueurs d'espoir dans vos textes, vous dites quand même que de mémoire que l'obscurité s'agrandit. C'est ce qui vous fait...
Oui, je pense que ça, c'est ce qu'on ressent un petit peu en France, en Europe, depuis quelques temps.
Mais c'est ce qui a été le moteur, j'ai l'impression, de ces textes.
Oui.
C'est le sentiment que l'obscurité ou l'obscurantisme...
Moi, je prends volontiers l'exemple de Port-au-Prince qui donne lieu à un poème qui s'appelle « Pourquoi pas la joie ». Port-au-Prince est une ville où je suis allé deux fois et c'est une ville dure, évidemment. La rue à Port-au-Prince, c'est dur. Une promenade dans les rues de Port-au-Prince, on en sort absolument rincé parce que c'est une ville qui vous bombarde de tas de sensations intenses. La vie des gens est quand même hyper rude et en même temps, moi, je suis jamais rentré de Port-au-Prince totalement déprimé, accablé parce qu'il y a une énergie, il y a une lumière. Ça fait un peu bête à dire comme ça, mais je vous assure, il y a quelque chose de noble, de beau. Ces gens, ils se battent, ils sont debout. Et moi, c'est ça que j'ai envie de capter aussi. C'est pour ça que j'essaye dans les poèmes, même si le contexte est un peu rude, de m'attacher plus particulièrement à ces gens, ces femmes, ces hommes qui sont debout.
Oui, parce qu'il y a aussi un devoir de mémoire. Et quand vous dites ces gens qui sont debout, je pense, j'ai cette image des bateaux, des négriers, où justement on entassait dans les cales debout des esclaves pour un marché odieux. Et vous le décrivez avec presque comme un journaliste pourrait le faire, comme si vous y étiez. On a les odeurs horribles. terrible. On a les gens qui crient, on a les râles, on a l'humiliation qui est faite. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement violent. Et je dis, c'est un devoir de mémoire parce que il ne faut pas oublier que tout ça a existé. Il n'y a pas si longtemps. Oui. Il ne faut pas oublier que
ça existe encore dans certains pays. Pas le fait de monter dans les bateaux comme ça, mais l'esclavage.
Oui.
C'est encore pratiqué dans certains pays.
Oui, on parle souvent de l'engagement par rapport à l'écriture. Je pense qu'un des engagements n'est pas forcément de l'action. Je suis assez modeste vis-à-vis de l'écriture et de mes petits poèmes personnels. Mais on oublie que dans l'engagement, il y a aussi l'engagement mémoriel. Essayer de récupérer quelque chose qu'on a peut-être un peu oublié, sur lequel on est passé vite, d'y consacrer un poème de 20 pages, c'est une forme d'engagement, de dire voilà, cette mémoire-là, il faut pas qu'elle parte. Je pense que sur la traite négrière, la prédation de l'Europe sur l'Afrique, on n'a pas tout dit, loin de là encore. Ouais. D'abord, on commence à savoir un petit peu.
On n'est pas propre, quoi.
Non, et puis chaque pays connaît un petit peu son histoire, mais par exemple, on sait pas du tout le rapport, on n'a jamais la vue d'ensemble sur l'Europe. Les Français connaissent très mal l'histoire coloniale des autres pays, italiens, anglais, allemands, Belgique, alors qu'il faudrait voir ça comme un tout, parce que ça a été à la même période, sur les mêmes principes.
Et vous décrivez l'Europe comme une terre de sang, comme s'il y avait une façon d'expliquer, de même qu'à Rome, il y avait eu ce fratricide originel entre Romulus et Rémus, que l'Europe était née du sang, et que d'une certaine façon, elle était vouée à sans cesse... reproduire cette situation ensanglantée.
Je pense que c'est les deux. Je pense qu'elle est née du sang, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la beauté des temples grecs, des mosaïques. Il y a tout ça, mais on peut pas faire le tri. C'est-à-dire qu'il faut tout prendre. Mm-hmm. L'Europe s'est toujours étripée joyeusement. Les nations, c'est la concurrence. Donc ça fait totalement partie de notre bagage. Et je parle de ça pour dire que le jour où tout d'un coup plusieurs hommes se sont dit Europe. Comme un projet politique, c'est quand même vrai que ça a été, je pense que c'est le plus beau rêve de ces dernières années, de ces dernières décennies. C'est une manière de dire, on va peut-être arrêter d'être dans la compétition des pays les uns envers les autres. L'histoire de la France, de l'Angleterre, de l'Espagne, de l'Italie, c'est quand même depuis toujours s'entretuer, essayer d'être plus rapide que l'autre sur les enjeux économiques, militaires. Et tout d'un coup, il y a eu ce projet européen. Et c'est pas rien quand même. Alors, je sais qu'il est insatisfaisant, je sais qu'il nous fait tous râler, mais moi je vois pas autre chose qui soit du côté d'une belle utopie, quoi.
Et aujourd'hui l'Europe c'est aussi le renoncement dans la gestion de la crise des migrants.
Oui.
C'est la responsabilité.
Notre-Dame de la Jungle aussi, oui. c'est calé, c'est la manière dont vous en parlez, la honte que vous avez même.
Moi c'est ça que j'ai ressenti, ouais. je peux pas essayer de trouver autre chose. C'est vrai qu'en allant à Calais, surtout à Grande-Synthe, mais enfin à Calais aussi, c'est la honte qui m'a saisi. Ouais, c'était Grande-Synthe n'existe plus sous la forme dans laquelle je l'ai vu. Enfin, je pense que le camp actuel c'est pas non plus tellement mieux, mais non, c'est vrai que c'est dur d'abord pour les réfugiés qui étaient dans ces conditions absolument monstrueuses, et puis c'est dur pour nous parce que ça définit ce qu'on a envie d'être. Moi j'ai pas envie d'être ça, j'ai pas envie que l'Europe ait ce visage là, ça m'intéresse pas, ça me fait pas rêver, c'est pas comme ça qu'ils vont réussir à faire naître en moi un peu d'enthousiasme pour ce projet-là. Et ça, je pense qu'on a quand même le droit de le dire. Pas en notre nom, quoi. C'est pas possible.
Non, mais c'est beau. Ce qui est incroyable, c'est que je retrouve dans la douceur de votre voix, la douceur de certains écrits. Au milieu de la violence des propos, il y a toujours cette forme de douceur, même si on peut pas dire que vous soyez optimiste. Je pense notamment à la naissance, si un jour tu nais, où il faut pas s'attendre à la fête et aux cris de joie, mais plutôt à de l'inquiétude.
Oui, c'est un poème sur le Kurdistan, parce que je suis allé au Kurdistan irakien, à Erbil, il y a quelques années, juste avant que Daesh ne prenne Mossoul, quelques mois avant. Et c'est vrai que j'avais envie d'écrire quelque chose sur le Kurdistan. On connaît mal, vu d'ici aussi, la réalité. Moi, j'en suis pas un spécialiste, mais ce peuple sur plusieurs pays, hein, il faut rappeler, le Kurdistan, c'est un peu... Il y a des Kurdes en Irak, il y a des Kurdes en Turquie, il y a des Kurdes en Syrie, il y a des Kurdes en Iran, bien sûr. Et y aura-t-il un jour un Kurdistan? C'est la grande question. Les plus avancés dans le processus d'indépendance, c'est les Kurdes d'Irak.
Mais eux-mêmes ne sont pas encore indépendants, ils sont autonomes. C'est évident que si jamais un jour il devait y avoir un Kurdistan, et ce serait quand même une très belle chose, ça fera pas plaisir au pays en question. Ça sera forcément parce qu'ils auront réussi à l'imposer. L'histoire des pays, c'est toujours un peu comme ça, hein. Il faut faire sa place. Donc si un jour ils naissent, oui, non, je pense que personne ne se réjouira à part eux, et ce sera formidable.
C'est un devoir que d'aller sur place, que d'écrire, que de porter, de protéger les plus faibles, d'essayer d'être utile.
Ouais, d'être leur voix, ouais, aussi, hein, d'une certaine façon.
C'est pas, je me relève pas le matin en me disant, là, je suis chargé d'une mission. Je pense que c'est un rapport plus personnel à... En fait, au confort, j'ai l'immense chance, et je vous assure que j'en profite vraiment tous les jours, de me dire que moi, j'ai une vie qui me plaît. C'était le rêve de faire ce que je fais. Écrire, vivre de ma plume. Après, je vois comment est-ce que ça pourrait être un truc qui ronronne un peu. J'écris un roman tous les deux ans, puis j'enchaîne sur un autre, et puis ça marche. C'est formidable, hein, c'est très bien. Mais il y a un moment donné où ça me mettrait, je pense, dans une zone de confort qui me plaît pas beaucoup. Et donc aller un peu comme ça aux quatre coins du monde, et puis considérer que l'écriture doit aussi se frotter à cette brutalité-là, c'est peut-être aussi une manière de pas être dans on enchaîne, quoi.
Vous avez le sentiment d'avoir une dette? C'est une question qui m'interpelle toujours avec les auteurs, comme si le confort de votre vie au quotidien, vos aspirations personnelles, oui, faisaient que, et vous aviez quelque chose à rendre.
On peut tous se la poser.
Oui, 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 mais...
Moi, c'est mon banquier qui m'a...
Mais dans la matière littéraire, je trouve qu'il y a souvent quelque chose de cet ordre-là, comment, oui, on en arrive à écrire et à raconter, à se raconter, à raconter les autres.
Moi, j'aime bien cette notion de dette. Quand on dit dette, on ne dit pas culpabilité. Je me bats pas les flancs le matin, en me disant il y a des gens qui souffrent.
Et on parle de devoir.
Mais la dette, c'est une belle idée, oui, ouais, bien sûr. Et on parlait de l'esclavagisme et de tout ça. Je pense qu'il y a eu un débat à un moment en France, vous en souvenez peut-être, sous Sarkozy, qui disait, enfin, arrêtons de nous sentir coupables. Il n'est pas du tout question de culpabilité. On est tous nés bien après tout ça. Mais l'histoire de la dette, elle court encore, bien sûr. Et tout simplement parce que les richesses que nous avons tirées de ce commerce-là, on en jouit encore. Donc,
et donc, eux en pâtissent encore,
et
d'une
eux
certaine
en pâtissent
façon.
Encore, bien sûr. Mmh. Ouais.
Laurent Godet signe de sang et de lumière ces poésies donc réunies chez Actes Sud, et qu'on vous encourage, vous l'avez compris, évidemment, à lire. Et c'est pas uniquement lire, c'est réfléchir que l'on fait quand on se plonge dans l'écriture.
C'est
de
un
Laurent
bon
Godet.
Moment de détente.
Oui, je vois que Daniel Morin est là et accablé.
Non, mais c'est vrai que c'est important de le dire, parce que souvent certains recueils de poésie sont assez hermétiques. Ils demandent beaucoup d'engagement, parce que c'est des images, des métaphores et des liens qu'on peine à reconstituer. Là, de par la qualité descriptive, narrative même, de vos textes, on est emmené dans une histoire, et on vous suit.
Merci.
Justement, Leïla, oui, vos oreilles ont sifflé quand on vous annonçait la venue de Laurent Godet.
Eh oui, je me suis réjouie, et je pourrais faire un brouillon de culture. Ah, pardon.
Tout à l'heure.
Ouais, tout à l'heure, mais je pourrais faire ça pendant une heure et demie, en fait. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais commencer par un son pour vous. C'est une pièce de théâtre, c'est Hécube d'Euripide.
C'est Hélène dont il devrait réclamer l'égorgement sur son tombeau, car c'est elle qui l'a perdu en le menant à Troie. Et s'il faut, pour ce meurtre, une captive de choix qui l'emporte en beauté. Nous ne sommes pas concernés. La fille de Tindar est parfaite en sa forme et coupable. Elle est apparue bien plus que nous.
Il y a des mises en scène qui font date. Celle-ci, c'est celle de Bernard Sobel, donc Hécube d'Euripide. Maria Cazares dans le rôle de l'Hécube.
Immense Cazares.
Et Vladimir Yordanov dans celui d'Agamemnon. C'était, je crois, ça a été un choc esthétique pour vous, Laurent Godet.
Ben oui, Cazares, quoi, de voir ce petit bout de femme. On entend là cette voix incroyable. Mmh. Elle avait cette espèce de double voix, c'est-à-dire que des fois ça partait dans les basses, là, une voix qui se casse, et puis elle était la tragédie, quoi, de manière pas du tout cérébrale, pas du tout chiante, pas du tout lointaine et prétentieuse. C'est pas la caricature du théâtre avec les bras en l'air et la voix chevrotante. Elle était la tragédie au sens où son corps devenait tendu, noué, et puis on avait tous envie de pleurer. Donc Cazares, c'est un grand choc. Ouais.
Est-ce que c'est un choc qui vous a conduit à écrire? Vous avez écrit du théâtre. Est-ce qu'il y a un lien entre Cazares, entre ces premiers moments-là et vos textes théâtraux, puisque
oui,
vous
oui,
avez
ça fait partie des quelques spectacles. Je suis retourné le voir deux fois, je crois, celui-là et quelques autres. J'avais 16 ans, hein, il me semble que c'est 88, ça.
Mm-hmm. Ouais, 88.
C'est oui, c'est voir du théâtre, avoir des émotions, être scotché sur mon fauteuil de spectateur, c'est évidemment ça qui à un moment donné donne envie d'écrire. Moi, j'étais complètement inhibé à cet âge-là. Pousser la porte d'un cours de théâtre, c'était inenvisageable. Ça me terrifiait. Donc écrire était sûrement la seule solution.
Et toujours une matière antique qu'on retrouve dans beaucoup de vos écrits, et moi c'est ce qui me plaît beaucoup. Et quand je pense à vous, je pense à l'oralité de votre écriture. Tout à l'heure, Nagui a dit quelque chose d'intéressant, il a dit, j'ai entendu...
Une fois.
Non, mais non, c'est pas ce que je veux dire.
Bah si, ça résonne.
T'as noté l'heure, moi.
Il a parlé de votre douce voix quand il vous écoute et aussi quand il vous lit. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare et d'assez puissant.
Je vous maudis tous. Car le monde est laid, et c'est vous qui l'avez fait. Vous vous êtes pressé autour de moi. Vous m'avez entouré de mots doux et de sollicitude, mais je ne voulais rien de cela. Je maudis les employés de ce cimetière qui portaient le cercueil de mon fils avec soulagement, parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils ne pouvaient s'empêcher de trouver qu'il était bien léger, et que c'était moins fatigant pour eux. Je sais que c'est ce qu'ils ont pensé, même si rien ne transparaissait sur leur visage, et je les maudis d'avoir eu pareille pensée. Je maudis ceux qui étaient là, dans la foule, et que je ne connaissais pas. Ils sont venus par une méchante curiosité et je souhaite que ce soit à leur tour de pleurer sur ceux qu'ils aiment.
C'est un extrait de La Porte des Enfers.
Oui.
C'est vous qui lisez. Oui. Alors, plusieurs questions déjà par rapport à votre capacité à écrire et à nous donner à entendre en même temps. Est-ce que vous écrivez en parlant ? Est-ce que...
Vous écrivez avec la bouche ?
d'une certaine façon, est-ce que vous écrivez avec la bouche ? Oui,
ouais, merci, Daniel. Bien sûr. En fait, je me rends compte que tout ce que j'écris, que ce soit théâtre, roman, quelle que soit l'étiquette qu'on met sur le bouquin après quand il sort, c'est fait pour la voix, en fait. Mm-hmm. Alors, je sais très bien qu'a priori, personne ne va se mettre à déclamer dans son salon.
Ces poèmes de son
Les poèmes, lumière, peut-être, oui. Ouais, bah, mais oui. Un roman, non.
Tout alors, j'ai dit que ça ne pouvait pas être de chansons, mais rejoindre les planches d'un théâtre et faire un travail de lecture.
Bien sûr, oui,
mais le roman, Laurent Godet, vous n'êtes pas sans savoir que quand on le lit, on entend une voix. Et on l'entend plus ou moins fortement selon l'auteur. Et je trouve qu'avec vos romans, même si je ne les lis pas à haute voix dans mon salon, j'ai votre voix qui m'accompagne.
Ben, tant mieux, non, ouais. C'est sûrement dû au fait que c'est comme ça que je le travaille, en tout cas, effectivement. Ouais.
Et lire vos textes, ça c'est déjà une étape importante. Et lire ceux des autres, est-ce que là, j'ai le sentiment que vous avez une langue qui vous appartient, rien qu'à vous, et que c'est peut-être plus compliqué d'être confronté à un texte qui n'est pas...
Oui, parce que je ne m'autoriserais pas à le faire, je crois que j'aurais trop peur. Comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas comédien, je n'ai pas cette formation-là, je pense que c'est un vrai métier. Et sur la langue des autres, il faut du coup avoir un peu de bagage et d'outils. Je le fais sur mes textes, j'aime beaucoup le faire, dans des théâtres ou dans des librairies, mais parce que c'est ma langue, donc j'y vais avec cette musique-là. Sinon, puis je vais pas voler le boulot des comédiens.
Non, mais surtout, vous ne jouez pas. Vous avez la sincérité des propos que vous portez.
C'est mes textes, je vous avoue que quand c'est un extrait d'un roman où il y a plusieurs personnages, où il faut faire les voix et tout, moi je me...
Oui, quand c'est dialogué...
Ça devient compliqué pour moi, oui.
Et vous avez mis combien de temps pour sentir que vous aviez votre langue, que votre langue venait ? Parce que j'imagine que c'est un travail de longue haleine. Quand vous avez commencé à sentir que, tiens, vous aviez votre musique rien qu'à vous, vous avez un déclic
Ça, c'est une question compliquée, je sais pas, non. J'allais dire peut-être dès le début, mais je dis ça sans prétention. Hein. C'est juste que le premier texte qui m'a vraiment... Où je me suis dit, là, il y a quelque chose qui est... Voilà, ça commence maintenant. C'est un texte qui s'appelle Onisos le Furieux, qui, de fait, est mon premier à être publié. Et là, je me suis dit, bah voilà, c'est comme ça que ça me plaît, et en termes de langue.
Et vous trouvez pas que votre écriture a changé au fur et à mesure des années, non ?
Si, parce qu'après, c'est un enjeu aussi pour pas être dans l'ennui. De pas toujours réitérer la même chose. Donc j'ai essayé d'allonger la phrase, par exemple.
C'est joli. J'essaie d'allonger la phrase. Il y a des pièges que vous, de syntaxe que vous cherchez à éviter ?
y a les petits trucs où on, quand on l'écrit, on dit tiens, ça, tu l'as déjà dit ailleurs, ou tiens, c'est toujours comme ça que tu formules.
Et qui
quand...
plus outre ? Non, c'est pas.
Ouais, non, mais c'est marrant.
Je pensais aux adverbes, enfin, je pensais à.
Mais
des...
ça se joue dans le détail, hein. Ouais. Là, j'ai pas d'exemple, mais c'est vrai qu'on se rend compte que tout d'un coup, avec tel mot, on met toujours tel adjectif à côté. Ouais. Et donc là, il faut être vigilant, vous dire tiens, non, bah, je vais peut-être essayer d'en trouver un autre parce que. Le voyage n'est pas toujours fiévreux, il peut être aussi autre chose. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de petit...
Laurent Godet, de Sang et de Lumière, c'est chez Actes Sud, et on vous encourage donc à la voir. Il est, c'est le petit manuel que vous pouvez garder dans
c'est
la main,
bel objet,
que vous caressez, voilà. Que vous caressez, que vous gardez.
Bah, c'est un bel objet, c'est un livre, ça va.
Alors,
enflammé.
Non, non, il faut dire que c'est un bel objet. Chez Actes Sud, ils font une très très belle, c'est une très belle collection, format très long, haut, qui n'a rien à voir avec un livre de poche, qui est très joli par ailleurs, mais Je les trouve précieux. Moi, j'ai tous mes Laurent Godet dans ma bibliothèque, les uns à côté des autres.
Ah, c'est pratique si tu les as de la même taille en même temps sur une étagère.
C'est un côté pratique.
Ouais,
c'est
voilà,
ça qu'il faut noter. C'est un côté pratique.
J'aimerais faire horizontal, ça aurait été plus gênant. Ça sortirait de la bibliothèque.
Ah, c'est différent. Hein.
Voici l'humeur de Frédéric Sigris.
Non.
Si, c'est maintenant.
Richard. La poésie est une calvitie, Nagui. Comme mes cheveux, elle a quitté ma vie. Embellir le monde en travaillant sa prose, c'est toujours difficile quand on a des névroses. J'aimerais voir le futur de manière optimiste, ça serait oublier que je suis né sigriste. Moitié lorrain et moitié guadeloupéen, 39 ans plus tard, c'est clair, je ressemble à rien. Je ne veux point jouer les gros caliméros, mais dans ma famille tout de même, il y a un paquet de blaireaux. Facho haineux et même des racistes, ça serait pas beaucoup mieux s'ils étaient fionnistes. Mes profs de lycée me trouvant pathétique, me dirent de gagner ma vie en devenant comique. Venu à Paris pour remplir les salles, c'est payer mon loyer qui m'a donné du mal. Je voulais jouer Brecht, Beckett et Coltès, j'ai terminé chez McDo au niveau de la caisse. Tu rêves de passer tout un tas de castings, tu te retrouves à conseiller le menu McMorning. Un jour, tous découvriront mon talent. En attendant, tais-toi et retourne les steaks rapidement. Un peu plus tard, je me suis tourné vers le social. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour booster son moral. Tu rêves de sauver tout un tas de clodos, tu termines dépressif comme tant de travailleurs sociaux. Aider les démunis, ça en valait la peine. Ça me préparait surtout pour un film des Dardennes. La plus belle aventure, c'est d'avoir des enfants. Celui qui a dit ça, jamais ne fut parent. On s'extasie sur le sourire de ces charmants bambins, sans savoir à quel point c'est bien aussi un chien. Quiconque en a chez soi comprend bien mon émoi. Quiconque a des ados comprend bien la courgeot.
Oh,
avoir une descendance assure nos retraites. Les avoir chez soi n'est pas toujours une fête. On prend des rides, je parle même pas du bide. Sans oublier bien sûr le compte en banque vide. On s'endette sur 30 ans pour une jolie maisonnette auprès de banques gourmandes, souvent pas très honnêtes. Jour après jour, ta portion de galère, on nomme ça des emmerdes, j'appelle ça le RER. Chaque semaine, je suis à ce micro, regardant défiler des artistes en promo. Quelle fierté ça doit être de tous les côtoyer. À vrai dire, je m'en branle, je n'ai pas la télé. À travers de laborieuses chroniques, j'essaie autant que je le peux de parler politique. Fillon, Macron, Hamon ou bien Le Pen, j'en parle évidemment moins bien que Patrick Cohen. Et pour faire le portrait de ces nombreux connards, il me faudrait la verve, le talent d'un trapenard. Je ne dirai rien sur Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu mon chouchou, j'aime bien les gros ronchons. Voter est un acte dit démocratique, pourtant cette élection est bien loin de me donner la trique. Je rêve d'un avenir mille fois plus fantastique, je rêve d'une élection cent fois plus poétique.
Wouhou ! Oh, bon.
Pour revenir plus souvent, Laurent Godet, en fait...
C'est pas que des alexandrins, mais c'était de la poésie, en tout cas. Frédéric Sigris, monsieur.
France Inter, la bande originale, avec Nagui.
Dans cette bande originale, Laurent Godet, notre invité de Sang et de Lumière, avec l'esclavage, les réfugiés, les immigrants, les attentats. Alors évidemment, dit comme ça, on se dit, oulala, oui. Que le ciel est sombre, mais il n'est pas très clair non plus. Il y a beaucoup de sang qui coule sur cette terre. Vous avez cherché quelques rayons de lumière, mais déjà d'en parler, ça fait du bien. Et ça prouve que, en tout cas, vous avez repéré où étaient les mots.
Mais moi, je pense que c'est la vertu de la
de poser des mots quand on aime ça et quand on y croit. C'est, on parlait de la tragédie tout à l'heure, et dès qu'on dit tragédie, on a l'impression que ça va être absolument sinistre. Mais même le personnage le plus tragique, à qui il arrive des choses les plus terribles, on entendait Cazares dans Hécube, elle perd ses enfants, elle est vaincue, etc. Ouais. Même celle-là, elle parle. Elle se lance dans un long monologue. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a la force de dire son malheur et de se lancer dans un grand chant tragique. Dans la vraie vie, quand on subit des choses pareilles, généralement on est juste cassé, brisé et silencieux. Donc la force des mots, c'est déjà un élan, c'est déjà une beauté en fait. Donc c'est pour ça que même la pire des tragédies, à partir du moment où elle est écrite ou elle est représentée au théâtre ou dans des poèmes, je pense qu'elle est là déjà pour apporter de l'élan.
De sang et de lumière. Tout à l'heure, nous allons accueillir Judé Jassouma, tout est dans le titre du livre qu'il a écrit, Je viens d'Alep. Autrement dit, c'est un réfugié. Il se qualifie même de réfugié ordinaire. On en parlera avec lui, alors qu'il n'a toujours pas obtenu son statut de réfugié. On en parlera tout à l'heure, mais d'abord, voici la bande originale de Laurent Godet, c'est-à-dire quelques dates que nous avons relevées dans votre vie, et on vous a demandé ce que vous écoutiez, par exemple, en 1978. On écoutait la même chose tous les deux.
Ah. Eh ben.
Ça ne dit rien plus jeune.
Bien sûr. Si, si, bien sûr. Qu'était là, bien sûr. Cria Cuervos, le film, tu rigoles.
Formidable.
J'étais pas né.
Et alors ?
78, vous êtes à l'école primaire même. Est-ce que vous aimiez déjà l'écriture, la rédaction ? Vous étiez bon en français ?
Rire gêné.
Oui. Non, j'aimais l'écriture.
J'ai pas parlé d'orthographe.
Non, hein. Je vois où on va aller. Ouais. Non, j'aimais bien écrire. Et c'était bien. 78, 6 ans, c'est bien. C'est le moment où c'est plaisant et où ça se passe très bien. C'est après que ça s'est corsé un peu avec l'entrée au collège et les gros problèmes d'orthographe. Effectivement,
Ah mais moi, il y a une question que j'adore poser aux écrivains. Vous avez eu combien au bac français? Est-ce qu'un prix Goncourt peut s'être un peu loupé
En français, je me suis pas loupé, mais j'ai pas eu non plus 18, je sais plus, mais un truc genre 14-15 quand même, pas mal, non?
À l'écrit et à l'oral?
Je sais plus, ouais. Je sais plus.
On va appeler votre lycée. Vous étiez où?
Non mais j'ai pas, par exemple, j'ai une petite mention assez bien, vous voyez, pas le truc brillant quoi.
Alors, et toi, Tom Villa?
Moi, j'ai eu 8 à l'écrit et j'ai eu 18 à l'oral.
Ouais, voilà. Ouais. Non, c'est peut-être pour ça qu'on fait ce métier.
Je crois que t'as eu combien toi?
Pareil.
Mais la qualité littéraire, après, c'est ça qui est chouette, c'est ça qui fait même, qui donne confiance, c'est qu'on peut être un piètre élève en littérature et pourtant écrire des choses qui plaisent aux gens et qui donnent envie de lire.
Et avoir de beaux objets comme ce livre qui est en longueur.
Aussi, tu les as dans ta bibliothèque, tous ces livres.
Je suis fétichiste du livre, alors forcément.
On en arrive à votre première publication. Là, on est en 1997 et vous écoutiez Massive Attack. Karma, coma, Jamaica and Roma. 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 Vous en avez parlé de ce premier texte, Onizos, qui s'est monté en 2000, trois ans plus tard, au Théâtre National de Strasbourg. Cette première écriture, cette première publication, c'était se retrouver comme légitimé par justement un milieu qui... Être publié, ça veut dire, ok, c'est bon, tu rentres dans une famille.
Quand même. Ouais. On est content quand on a le petit coup de fil et puis tout ce qui suit, effectivement.
Vous aviez été refusé avant par d'autres?
Oui, par tous.
Ouais.
Oui, j'ai écrit un premier roman bien avant tout ça, que j'ai envoyé à 25 maisons d'édition et j'ai eu 25 têtes de refus.
Que vous avez conservé, j'espère.
Que j'ai conservé, dont une qui me disait arrêtez d'écrire, commencez à lire.
Mais non.
Si.
La violence. Donc, voilà.
Non, je les ai.
C'était quelle maison?
C'était quoi? C'était
non, bah non.
Si, vrai, non, je l'ai là.
Peut-être, non, mais pardon. Je les connais pas, je cherche pas à les défendre.
Peut-être que c'était très mauvais.
Mais non, c'est pas ça. pas ce que j'allais dire. Peut-être que le gars en question qui a écrit la lettre sur le papier en tête de la maison, lui-même n'y est plus. Après, oui. Tu peux pas dire c'est tel éditeur qui a. Qui... Enfin, je sais pas, non.
Si. Non, mais en plus, c'était un très bon éditeur.
Il va pas jeter la pierre comme ça à Flammarion.
Non, mais.
C'est ridicule.
Et en plus, je crois que t'as tapé.
Bon, attends, t'as aucun risque. 25 boîtes le refusent. Mais en même temps.
Je peux dire un petit truc sur Massive Attack. Parce que je voulais Massive Attack parce qu'en fait, c'est évidemment dans ces années-là. Mais en plus, vous parliez de Coltès tout à l'heure dans votre billet. Et pour moi, cette chanson-là, c'est très, très, très précisément le spectacle de Chéreau quand il monte dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Coltès et à la manufacture des œillets. Il y a un petit extrait de Karma Coma dans le spectacle. Et alors voilà, c'est une pièce absolument formidable. Chéreau jouait avec Pascal Grégory en face. Moi, je l'ai vu, je crois, 5 fois ce spectacle. J'avais écrit une petite lettre à Chéreau, tout ça. Ça fait partie de ces grands moments d'émotion de spectateur. Et juste pour dire que, bah voilà, Chéreau fait partie de ces gens qui nous manquent beaucoup, je trouve, parce qu'il avait un talent fou, parce qu'il suscitait chez les autres, que ce soit, il y a toute une génération de comédiens, mais moi, par exemple, d'écrivains, il suscitait du désir d'y aller aussi. Et ces gens-là sont précieux, et quand il y en a un qui part, ça fait mal, quoi.
Il y a qui d'autre dans la...
On écoute encore un tout petit peu. Oui, non, mais je t'en prie.
Quand je me demandais, justement, chez Reparti, qui sont ces autres metteurs en scène, auteurs, dramaturges, qui vous donnent envie d'y aller encore?
Il y en a beaucoup. Ouais. Il y a une jeune génération que moi je suis avec plaisir. Hein. Fabrice Murgia. Mm-hmm. Il y a des grands maîtres genre Castellucci et tout ça. Ça c'est des gens qui donnent envie d'écrire. Mais c'est vrai qu'on est en ce moment dans une période du théâtre aussi où le texte est un peu décentré. C'est beaucoup des écritures de plateau. Donc moi, alors que Chéreau était vraiment dans un truc assez classique, monter un texte, mm-hmm, et le faire avec une intelligence hallucinante, quoi.
Vous qualifieriez votre écriture de théâtrale?
Je pense que ce soit plus dans que la poésie, théâtral, que ce soit... c'est l'oralité qui m'intéresse. Ouais. Donc évidemment, ça porte quelque chose du théâtre, mais c'est plus l'oralité. Ouais.
En tout cas, le format du livre aide, parce qu'il est tout en longueur.
Mais non, mais c'est...
Il va pas te fâcher avec ça. Jusqu'à midi et demi, on aura la forme du bouquin.
Moi, je pense toujours à l'épopée, en fait, quand je vous lis, parce qu'à la fois, c'est un style poétique, style formulaire avec des répétitions, qui peut être narratif et descriptif. Et je trouve que, voilà, vous êtes vraiment un représentant contemporain d'un genre qui n'est plus et que vous avez su revisiter et d'une certaine façon réhabiliter. Et moi, je trouve ça toujours à chaque fois fascinant dans vos textes.
Eh ben, je prends, merci.
Dans les années 2000, les prix s'enchaînent et vous écoutiez Paolo Conte.
Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri.
Vous avez une bonne BO. Hein.
Allez, bonne ça va, BO. C'est validé.
Non, mais c'est amusant.
On imagine l'intérieur qui va avec.
Ça fait trois ans que nous avons la chance de faire cette émission et que peu de temps que l'on demande aux invités de dire véritablement qu'est-ce qu'il est la bande originale de leur vie, finalement, ce qui les entoure et leur univers. Et on voit, sans tomber dans de l'analytique à deux balles, on voit rapidement l'humeur, la douceur et l'importance des voix et des ambiances, en tout cas. Et c'est le cas avec Paolo Conte, Vieni via con me. Là, votre humeur est laquelle quand vous écoutez
Ça, c'est l'Italie. Moi, je suis très lié pour des tas de raisons à l'Italie. Et c'est vrai que le.
Essentiellement laquelle de raison
Une femme, essentiellement. C'est souvent comme ça que ça se joue. Hein.
Une Fiat 500
Une Fiat 500. Il y a eu aussi.
La bagnole.
Une Fiat 500 dans laquelle j'ai longtemps.
C'est quoi
Je me souviens en Italie dans les Pouilles, puisque ça se passe là-bas pour moi.
Le talon de la botte.
Ouais, ouais. Et donc, c'est le soleil d'Escorta qui est très inspiré de cette région-là, de ce que j'ai découvert à travers ma belle famille là-bas. Et donc, Paolo Conte, c'est tout ça, ouais. Enfin, il n'est pas du tout des Pouilles, mais c'est cette voix de l'Italie.
Et en chanson française, qu'est-ce que vous écoutiez ou écouteriez? Parce que là, il n'y a que des chansons finalement étrangères.
Voilà, la colle, je vais me fâcher avec tout le monde. Là.
Mais vous n'êtes pas obligé.
Un titre, là, par exemple, dans toutes ces années, que français.
Une chanson qui vous accompagne?
Vous me laissez 5 minutes
Bien sûr. On revient tout à l'heure.
Ces prix donc, dont parlait tout à l'heure Tom Villa, le prix Goncourt des lycéens, le prix des libraires, avec la mort du roi de Songor, tous ces titres sont maintenant des qualificatifs de carte de visite. On a le prix Goncourt, on a été reconnu, honoré. Ça devient.
Je crois pas.
Non.
Non, je crois pas. Ça m'intéresse pas tellement ça. Enfin, je suis super content d'avoir eu les prix. Je vais pas.
On dit ça quand on les a eu, ouais.
Oui, oui, non, c'est vrai aussi. Mais justement, c'est.
Ça fait pas toujours du bien le prix Goncourt.
Oui, mais moi j'ai.
C'est pour ça que j'ai refusé, moi.
J'ai eu un double cadeau, c'est de l'avoir, ce qui est formidable, et de l'avoir eu très jeune. Donc du coup,
ça aurait pu vous casser, vous mettre une pression supplémentaire.
Oui, oui.
Ça n'a pas été le cas.
Mais l'attendre longtemps, ça casse aussi.
Et c'était pas le premier roman non plus.
Non, non, non.
Donc,
c'était parfait.
Voilà, c'était dans le timing.
Ils l'ont senti.
Le nouveau livre donc s'appelle De sang et de lumière chez Actes Sud, un très bon format, comme le rappelait tout à l'heure.
Non, mais c'est remarquable. Quand on le voit comme ça, on a l'impression que c'est le plan du métro, mais pas du tout.
Mais ça compte aussi ce que tu lis.
C'est pas le guide Michelin non plus.
C'est le plan du métro, mais qui a coulé.
Non, Laurent, mais n'aidez pas.
Nous recevons Judé Jassouma. Merci mille fois de venir à ce micro. Judé, vous signez, Je viens d'Alep, itinéraire d'un réfugié ordinaire. Alors, ce qui est le plus frappant, ce qui fait le plus mal peut-être dans tout ça, c'est le côté ordinaire. C'est qu'il y en a beaucoup, comme vous, qui ont eu ce parcours. Peut-être
oui, c'est ça.
Vous avez plus de chance que d'autres. Vous êtes publié, vous êtes à ce micro,
sûr.
Vous exprimez. Oui. Tout à l'heure, juste avant de rentrer dans ce studio, vous me disiez que vous attendiez toujours d'être reconnu par la France.
Oui, c'est ça. Et j'étais choqué parce que j'ai eu la réponse de l'OFPRA, mais avec le statut, la protection subsidiaire. Donc, directement, j'ai dit pourquoi je suis pas reconnu comme un réfugié. Ils ont dit que je suis pas menacé directement. Mais comment ça? Je suis d'Alep. Ma maison a été bombardée 4 fois et j'étais obligé de traverser la mer Égée et tout ça, le long trajet de la Turquie et après la mer et en Europe et tout ça. Et je suis pas menacé 100%.
Donc. Vous leur aviez dit que vous deviez rencontrer Nagui, parce que là, ça aide, hein, ça précipite les choses.
Oui, on espère ça. On espère.
De la menace, oui.
Ah, vous avez une protection, oui. C'est une vraie protection. Oui. Mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'il faut expliquer. Je me rends pas compte des fourches connues par lesquelles il faut passer. Pardon, hein. Il faut expliquer que vous n'êtes pas venu pour
tourisme.
Pour des raisons économiques.
Oui, par une décision personnelle pour faire du tourisme, mais que c'était la mort qui vous a poussé.
Oui. Vous avez raison. Toujours, on dit, nous sommes réfugiés de guerre. Par exemple, avant la guerre en Syrie, on voit pas des réfugiés ou des migrants syriens en France ou en Europe, parce que on vivait normalement. Par exemple, moi, je gagnais ma vie très bien. J'ai une voiture, j'ai une belle maison.
Vous faisiez quoi là-bas?
J'étais prof de français.
D'accord.
Au lycée. Donc,
Et votre prénom là-bas, c'était?
C'était Jihad.
Jihad.
Jihad. On veut changer les emmerdes aussi.
Alors justement, c'est pour ça qu'il a changé de prénom.
Oui, Jihad, oui, parce que c'est d'abord, j'étais à Athènes. À Athènes, parce qu'on a attendu 4 mois pour avoir la réponse de la France ou n'importe quel pays en Europe, parce qu'il y a un accord entre la Grèce et l'Europe pour partager les réfugiés. Donc, c'est d'abord, j'étais avec un groupe de Syriens qui attend la réponse. Tout le groupe a eu la réponse, sauf moi. Mais moi, je dis, pourquoi moi et ma femme? On était ensemble tout le temps et
un
tout
double
ça.
Double sentiment d'injustice.
Oui.
Double.
J'ai renseigné un peu et tout ça, pourquoi. Et même une fois, quand j'étais à Athènes, quelqu'un m'a dit, vous vous appelez comment? Je dis, Jihad. Il a fait comme ça, une réaction terrible.
Ouais.
Donc, c'est Daesh, c'est l'offrant al-Nusra et tout ça. Mais je dis, non, c'est tout à fait différent.
C'est un prénom.
Le sens, c'est un prénom très fréquent en Syrie, dans les pays arabes. Même je dis, Jihad, c'est-à-dire si quelqu'un qui travaille beaucoup pour réaliser ses buts, on dit c'est Jihad. Donc, c'est pas le sens exact de faire la guerre, de tuer les autres personnes et tout ça. Donc, j'ai eu un appel avec Laurence de Combrol, journaliste qui est très intelligent et très sympa.
Avec laquelle vous avez travaillé
ce livre. Il m'a dit, il faut changer ton prénom. Ma femme à côté de moi, oui, Jude.
Joud. Et oui. Joud, ça veut dire
Joud en arabe, c'est la générosité. C'est ça.
Oui. Ça fait Joudlo, ça fait people.
Ah oui.
Mais c'est quand même un peu terrible, quoi. Il faut quitter son pays parce qu'on y est contraint. Il faut changer de prénom parce que ce prénom est trop évocateur ici et pourrait lui porter préjudice en termes d'identité. C'est quand même un chemin.
Oui, oui,
difficile.
Malheureusement, parce qu'il y a, un mal compris en Europe en général. Mm-hmm. C'est quoi l'islam? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe en Syrie? Toujours, moi, je dis, on a fui Daesh, on a fui le front al-Nusra, qui ont des sunnites. Toujours,
vous avez fui la mort, vous avez fui,
la mort, la folie et la terreur,
parce qu'il ne faut pas oublier que Daesh, les plus grands nombres de victimes de Daesh sont d'abord les musulmans, avant que ce soit n'importe qui d'autre sur la planète. Parce que, voilà, c'est trop facile aussi de dire c'est les musulmans contre le reste du monde, c'est pas comme ça que ça se passe. Les musulmans sont des victimes aussi des fous. Vous avez voulu alerter le monde, raconter votre histoire, c'est Laurence de Cambronne qui a eu l'idée de vous dire, et si on faisait un livre?
Oui, c'est ça. Un jour, quand j'étais à Martigny-Ferchaux en Bretagne, c'est la ville de ma naissance française.
De votre renaissance
française, oui, exactement. Parce que toujours, on recommence une nouvelle vie. C'est la cinquième fois que je recommence ma nouvelle vie. Toujours, on commence de zéro. Mais on recommence. Toujours, je dis, avec l'espoir, tout est possible. Mm-hmm. Pas de problème. Donc, j'ai eu un appel de Laurence de Cambronne et il m'a proposé de raconter. Joud, raconter ton histoire parce qu'il y a un mal compris en Europe. Qu'est-ce qui se passe en Syrie? Pourquoi la guerre, ça fait 5 ans de guerre et on n'arrive pas à arrêter la guerre, à mettre une fin à ce conflit en Syrie? Maintenant, on parle plus d'un million de morts. On parle de plus de 60 000 disparus en Syrie. Donc, maintenant, nous sommes dans une situation comme la Deuxième Guerre mondiale. C'est terrible.
Ce qui s'est passé, en fait, c'est que vous avez quitté votre pays pour la Turquie. Vous êtes d'abord parti seul en laissant votre mère et votre fille.
Oui, d'abord, j'ai décidé de partir après un déclic ou plusieurs déclics. Mais le déclic principal était l'histoire du chien qui... Parce que j'ai vu un chien qui porte dans ses mâchoires une tête humaine et tout ça. D'abord, j'ai pensé qu'il y a un rat ou un animal ou quelque chose comme ça, mais... Après,
l'horreur de la guerre.
L'horreur de la guerre.
Il fallait partir.
Oui. Et donc, je dis à Aya, ma femme, il faut partir.
Là, vous faites appel à des passeurs.
Mais avant de partir, j'ai attendu un mois parce que ma femme était enceinte. Donc, il faut attendre. Donc, 3 jours. Après la naissance de ma petite, Zain Al-Sham, la plus belle fille de Damas.
Évidemment, du monde.
Oui, merci. Donc, 3 jours après la naissance, je dis à Aya, il faut partir. Moi, je vais partir pour travailler un peu en Turquie, pour économiser de l'argent pour que vous pouvez me suivre. Donc, un bassor, l'histoire des bassors, toujours, je dis moi, un bassor, un voleur. C'est le synonyme. C'est
un passeur, un voleur.
Un bassor, un voleur, sans sentiment, qui s'intéresse beaucoup à l'argent, c'est seulement.
Qui vous demande combien?
C'est d'abord la frontière de la Turquie. Brest, c'est 500 euros, 5 entre 5 et 600 euros. J'ai passé la frontière illégalement parce que je peux pas avoir un passeport. Et même la Turquie demande un visa et tout ça parce que je suis demandé au service militaire supplémentaire et tout ça qui a coupé les fils métalliques et j'ai passé par un trou. Mais il m'a dit, tu cours comme ça, au nord, on verra. C'est la seule solution. Mais j'étais étonné parce que j'ai vu un tunnel rempli de l'eau et une minute, les soldats turcs de la côté droite, de la côté gauche, avec qui regarde et tout ça, surveiller la frontière et tout ça. Mais j'étais obligé de me cacher dans un trou, presque pour un quart d'heure, pour attendre que les soldats turcs partent et tout ça.
Ce qui est surprenant dans votre livre, pardon, on ne peut pas raconter tout le livre, il y a des points clés comme le comportement des passeurs. Oui. Un passeur, un voleur, c'est une formule...
En France, on dit un animateur, un voleur.
C'est une formule choc. Mais c'est la manière dont vous ne choisissez pas le pays dans lequel vous allez être réfugié.
Oui, c'est d'abord, on cherche... la paix. C'est le but. On fuit la guerre.
Ceux en France, qui disent oui, évidemment, ils viennent en France parce qu'en France, c'est confortable, tout va bien.
Vu comme ils sont.
Maintenant, je suis en France, mais ce n'est pas mon choix, ça. Quand j'étais à Athènes, selon l'accord entre l'Union européenne et la Grèce, une dame française, c'est par hasard aussi, qui s'appelle Karen. Je cherche cette dame parce qu'elle était super sympa. Elle était l'espoir pour moi. Parce que quand on est arrivé au bord d'Athènes, j'ai vu 2 000 ou 3 000 qui ont sur par terre, et les tentes et dans les salles. Cette dame a dit il y a un accord, toute l'histoire d'accord entre l'Union européenne et tout ça. Vous pouvez s'inscrire. Et vous serez dans un hôtel, mais on ne sait pas où. Vous allez où? Peut-être en Slovénie, en Lituanie. Moi, je dis, je cherche la paix n'importe où. Mais j'ai de la chance que la France.
Et comment vous avez été accueilli? Vous arrivez en Bretagne, à Rennes?
En Bretagne, oui.
Comment vous avez été accueilli?
Oui,
quel sentiment vous avez dans le...
D'abord, on avait peur. Parce qu'on a vu à Athènes les images de Calais, les tentes et tout ça. Vraiment, on a dit donc les Français n'accueillent pas les réfugiés et tout ça. Mais quand j'étais accueilli à Martigny-et-Ferchaux, en Bretagne, vraiment, j'étais étonné et choqué en même temps parce que les gens étaient super sympas, étaient gentils, très accueillants. Même le maire de Martigny-et-Ferchaux, Pierre Jecu, nous a accueillis. Et aussi l'association Qualia qui était là-bas. Il y a beaucoup de bénévoles. Et tout de suite, ils ont proposé des activités pour les réfugiés, ateliers de cuisine, des matchs et tout ça. C'était
vraiment... intelligent.
Oui.
Très intelligent.
Oui.
Est-ce que si la paix revient un jour en Syrie, ce que l'on souhaite tous, évidemment. Est-ce que votre envie de retourner en Syrie, contraire, vous êtes heureux de la nouvelle vie
sûr.
En France,
si vous voulez rester maintenant, en France. D'abord, je suis heureux maintenant, c'est la paix. C'est que je cherche, c'est la paix, donc je suis heureux, c'est sûr.
Il manque simplement le statut de réfugié.
C'est ma femme maintenant et ma petite en paix. C'est le plus important
pour
moi.
Vous êtes en sécurité, oui.
Oui, en sécurité, c'est ça. Mais j'aimerais bien retourner à mon pays. C'est les souvenirs, les amis, tout ça. Même mon pays maintenant en ruine. Et même Alep, ma ville de naissance, la vieille ville. Toujours, moi, je dis, la guerre en Syrie, c'est une guerre contre l'histoire. Parce qu'on a vu toujours sur les télés et tout ça, toujours les zones chaudes sont... La vieille ville d'Alep, par exemple, la vieille ville de Homs et tout ça, Balmyre. Donc, on détruit l'histoire de la Syrie. On dit toujours que la Syrie, c'est le berceau des civilisations. Le premier alphabet était de la Syrie. Donc, on parle d'une histoire de guerre, malheureusement, maintenant.
La paix est possible?
Tout est possible. Avec l'espoir, tout est possible. La guerre civile au Liban a duré 15 ans, mais après, la paix qui s'installe.
Laurent Godet, ce témoignage, en fait, c'est vous qui nous l'avez provoqué. Quand on vous a lu, on s'est intéressé, évidemment, à cette histoire racontée par Joud Jassouma. Ça vous
ça résonne beaucoup. C'est vrai que il y a plusieurs choses. Moi, j'ai la chance d'avoir pu aller en Syrie il y a 25 ans, quand c'était encore Hafez al-Assad, et de voir Alep, de voir Damas, et imaginer maintenant ces endroits qui sont chez vous en ruine, c'est une blessure profonde, parce que ça nous a été enlevé aussi à nous, bien sûr d'abord au peuple syrien, mais aussi à nous. Vous le dites, c'était aussi notre histoire de l'humanité, ces endroits-là. Et puis il y a quelque chose que je trouve très important à dire et à redire, et que Joud vient de dire, c'est que moi, dans le camp de réfugiés syrien que j'ai visité entre guillemets au Kurdistan, il n'y a pas une seule personne qui m'ait pas dite j'ai envie de rentrer chez moi. C'est le but de tout le monde, retourner au village, retourner au pays, reconstruire, mettre son énergie, sa force de travail et sa colère dans la reconstruction. Donc c'est aussi par rapport au discours qu'on entend, oui mais ils vont rester, ils vont s'implanter, ils vont nous prendre tout.
C'est pour ça que c'est important d'en parler.
Oui. Ils veulent, ouais. comme vous, si vous
même
étiez à cette place-là.
Même au sein de l'Europe, les pays ne sont pas d'accord. Hein. C'est-à-dire que toutes les décisions dont vous souffrez aujourd'hui, c'est des décisions
politique. C'est-à-dire, c'est pas forcément les gens. Il y a plein de gens qui veulent, qui accueillent.
Et regardez le regard de Jude quand il parle de la Bretagne, cette lumière, ce sourire. C'est dire aussi que quand on joue la carte de l'accueil, mais on la joue, c'est
voilà. C'est gagnant-gagnant.
Il y aura un lien profond ensuite entre lui et la Bretagne.
Absolument. Oui, maintenant les Bretons sont des amis.
Mais voilà.
Même Martinet Verchaud, vraiment, sont des amis. Toujours, on s'appelle.
Et ils sortiront grandis de cette histoire. Je viens d'Alep, c'est chez Alary Édition. Le témoignage bouleversant du parcours de la vie de Jude Jassouma avec sa femme, avec sa fille, avec ses amis et avec des moments absolument incroyables que vous avez pu traverser. Et la France reste heureusement une terre d'accueil. J'espère de tout cœur que les papiers une terre d'asile, une terre d'accueil, que ces papiers vont vous être remis pour que ce sourire que vous avez continue d'illuminer votre visage et celui de votre famille et que la paix revienne en Syrie. Évidemment, vous avez raison, il faut être optimiste. Oui. Merci Jude d'être venu à ce micro. Et bravo pour votre langue française. Elle est absolument...
Vous pourriez être prof, d'ailleurs, si vous vouliez.
On continue dans cette bande originale jusqu'à midi et demi avec Laurent Godet. Merci, c'est la bande originale. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kanoboudali.
Bonjour à tous.
Tom Villa.
Bonjour.
Exiliste Daniel.
Bravo Daniel.
Et notre invité Laurent Godet.
Bravo. Bonjour.
De sang et de lumière, le nouvel ouvrage publié par Laurent Godet qui est un recueil de poésie avec des poésies qui sont à peu près sur 4-5 ans, si ma mémoire est bonne,
ou un peu
plus.
Oui, c'est ça, à peu près, oui.
4-5 ans, qui ont été publiés dans différentes revues littéraires. Certaines poésies que vous avez rajoutées, comme pour dater peut-être un peu plus aussi ce recueil, parce que vous aviez été ému, touché par d'autres événements. Mais tout a un point quand même commun dans ces poésies, c'est le bouleversement, l'émotion que vous ressentez face aux malheurs du monde, que ce soit des malheurs climatiques avec des ouragans, ou que ce soit des malheurs humains ou politiques ou économiques. Vous ne pouvez pas rester insensible, quel que soit le problème d'ailleurs, et quel que soit le pays où ça se passe, parce qu'on voyage beaucoup aussi avec vos poésies.
Mais oui, mais je pense que c'est l'espace de l'écriture, de la littérature, c'est un grand mot, mais
Sauf que vous voyagez beaucoup, vous vous rendez aussi sur place.
Oui. Et c'est vrai que quand c'est une ligne dans un journal ou une brève dans les infos, ce qui est très bien, hein, il en faut bien sûr. Il y a tout un domaine qui n'existe pas, qui est celui de l'émotion en fait, de l'intériorité, du ressenti, parce qu'il faut être objectif, il faut être court, il faut être bref.
Et or, d'une certaine violence aussi, parce que vous, avec la douceur de votre voix et de votre écriture, il y a quand même des coups de gueule, il y a quand même.
Parce qu'il y a quand même un peu de colère vis-à-vis de tout ce qui se passe ou de tout ce qui a pu se passer. Oui, c'est des poèmes qui sont souvent écrits sur la colère, oui, bien sûr, oui. Mais il faut être un peu combatif.
On demande souvent si une chanson peut changer le monde. Est-ce que vous pensez qu'un poème peut changer le monde ?
Je pense qu'un poème ou une chanson, d'ailleurs, peuvent infuser dans la tête de bien des gens et que ça peut contribuer à prendre des décisions ou à changer de regard sur plein de choses, oui. Et puis moi j'aime bien ça, j'ai biberonné Bob Dylan et il y a cette utopie dans les chansons de Bob Dylan que tout d'un coup c'est des voix un peu rebelles qui disent quelque chose et qui invitent les gens à peut-être prendre une voie de traverse.
On a compris, après le prix Goncourt, il vise maintenant le prix Nobel, Laurent Godet.
C'est pour ça que c'est quand même hyper important que ce soit imprimé sur un format attractif.
Ouais,
je vais revenir sur le format de ce livre.
Merci Actes Sud.
Actes Sud, 14,50€, c'est vraiment une super affaire.
Et c'est le petit rien qui fera la différence, Laurent Godet. Je vous lis, c'est l'édition. Voilà. Croyez qu'une personne comme moi qui aime le papier.
Cette mauvaise langue, ce mauvais esprit, vous la retrouvez maintenant. C'est Daniel Morac.
Oui, merci.
En France, il existe un endroit où tout est merveilleux, un endroit à part, perdu dans le 16e arrondissement de Paris. Une maison ronde, pleine de vie, de joie, mais aussi de douleur, de jalousie, de bassesse et de grandeur. Bref, il s'y passe toujours quelque chose de fort. Quand pour toi une journée est super, sache que c'est une journée ordinaire. France Inter. Une saga quotidienne avec le surpuissant Patrick Cohen, Laure Adler, l'illuminé, Dédé Manoukian, la brute, Fabrice Drouel, le vicelard, et bien sûr, tous les people qui hantent les couloirs de la radio. Bienvenue dans une journée ordinaire à France Inter. C'est parti. Aujourd'hui, tout est calme à France Inter.
Enfin,
en apparence. Aujourd'hui, en ce lundi de Pâques, toute la grille de France Inter est sinistrée, il n'y a personne. Les invités, et même pour ne pas dire surtout, la direction et tous les cadres, tout ce petit monde est en vacances. Heureusement que tous les producteurs, les animateurs et les chroniqueurs sont là, en direct. Sinon, ce serait terrible.
Menteur.
Pas d'invités, peu importe. Professionnels jusqu'au bout des ongles, les gens de France Inter ont géré la situation. Tout commence chez le roi Patrick, qui en tant que demi-dieu narcissique monomaniaque, fait une interview de lui-même.
Le 7-9 de France Inter.
Bonjour Patrick Cohen. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation, je vous en prie. Toujours un plaisir de rendre service aux gens brillants. Patrick Cohen, ça fait quoi d'être l'homme le plus écouté de France ? Pour être honnête, ça surprend. J'ai bien été surpris 2-3 minutes. Et puis ? Puis on s'habitue, on trouve ça normal. Patrick Cohen, d'aucuns disent que vous êtes un génie. Vous en pensez quoi ? Je suis d'accord. Ma modestie voudrait que je dise non, mais ma lucidité m'oblige à être honnête, oui. Je suis génial. Patrick, vous avez des projets pour la France ? M'excuserez Patrick, mais la bonne question est plutôt, est-ce que la France a des projets pour Patrick Cohen ? Oui, vous avez répondu. La réponse est, bien sûr, la France a des projets pour Patrick Cohen, mais elle a surtout des attentes énormes qui me mettent pas mal de pression, mais, comme le disait si justement Socrate, my tailor is rich. C'est pas faux, vous êtes brillant. Je sais. Un peu plus tard, pour rester fidèle à l'ambiance de vide en ce lundi de Pâques, Fabrice Drouel nous livre un dossier affaires sensibles surréaliste, le dossier du jour où il ne se passa rien.
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, nous allons évoquer un jour de l'année. Ce jour, c'est le 17 avril 2017, un lundi de Pâques où il ne s'est rien passé. À Radio France. Il est tôt, il est 5h du matin et on sent déjà dans les couloirs de la Maison Ronde que ça va être une journée chiante. Éric Delvaux, l'animateur du 5-7 qui n'a pas d'invité, profite de son temps libre pour s'épiler devant le miroir du studio. Pendant ce temps-là, dans la rue, c'est idem, il ne se passe absolument rien. Devant Radio France, une vieille dame qui avait fait une attaque en traversant la rue est toujours en train de ramper pour rejoindre le trottoir. Il n'y a même pas un scooter pour lui donner le coup de grâce. Nagui, qui est bien là, présent, mais sous forme d'hologramme, depuis sa piscine de 3 hectares à sa barque, semble bien s'amuser. De temps en temps, on aperçoit dans l'image un ami qui passe. Balkany, Guy Georges, Conchita Wurst. Mais à part le studio 621, où est projeté l'hologramme, rien à se mettre sous la dent. Pour tuer l'ennui, dans le couloir, André Manoukian propose aux filles qu'il croise de jouer à Chabit, mais elle décline tout. Elle décline toute l'offre et le gifle. Lundi de Pâques, plus qu'une affaire sensible. Journée de merde. Pour terminer cette journée un peu spéciale, Laure Adler a eu, comme souvent, une idée géniale. Dans son émission L'Heure Bleue, en ce lundi de Pâques, elle a un invité très à propos.
Laure Adler, L'Heure Bleue.
Bonsoir et bienvenue dans L'Heure Bleue. Ce soir, je reçois l'œuf Kinder. Bonsoir, l'œuf. Alors hier, pour vous, c'était le coup de bourre. Combien d'enfants vous ont mordu puis défoncé pour trouver un jouet idiot ? Comme vous l'entendez, chers auditeurs, l'œuf Kinder ne souhaite pas répondre. Je vais respecter son mutisme, un mutisme du j'en suis sûr, un traumatisme de tous ces cons de gosses qui vous laissent à mort. Oh, mon Dieu, mais quelle radio ! De rien, le personnel a réussi à faire l'impossible, c'est-à-dire tout ! Tout le monde a participé, tout le monde s'est mis en quatre pour que collectivement, on atteigne l'excellence. Et en ce lundi de Pâques, qui tombe le jour du 31e anniversaire de Joe Wilfried Tsonga. Alors... Je sais,
c'est fou, tout est là,
c'est dingue. Et pourtant tout ça, figurez-vous que c'est juste une journée ordinaire
à France Inter. Bravo Daniel Morin.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Parfait, parfait. J'adore cette journée ordinaire. Rien d'ordinaire dans le livre de Laurent Godet, loin
le
de
là. Le format peut-être.
Non, 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 justement.
Il
n'est pas ordinaire. De sang et de lumière, avec quand même des lueurs d'espoir, mais aussi beaucoup de cicatrices sur notre monde, sur l'humanité. Il y a une expression que vous reprenez, qui avait été utilisée au moment des attentats et des menaces dans le monde entier, d'ailleurs, parce qu'on on parle de Paris, mais il n'y a pas que Paris qui a souffert de l'obscurantisme et de la bêtise humaine. Vous parlez de cible molle et vous en jouez de cette mollesse, même si l'expression est extrêmement violente. C'est aussi le travail d'un poète d'aller chercher comme ça dans des expressions employées par des journalistes, par je sais même pas qui a eu l'idée d'employer cette expression-là, mais d'en être choqué et de la prendre à son compte.
Oui, c'est une expression qui est utilisée, effectivement. Nous sommes des cibles molles par rapport au terrorisme.
Parce qu'on ne peut pas répondre.
Parce qu'on n'est pas armé, etc.
Qu'on est souriant à des terrasses de café.
Exactement. Oui. Mais partir de cette expression pour essayer, effectivement, ensuite de la, pas de la détourner, mais de montrer à quel point on peut ne pas être des cibles molles. Parce qu'à l'intérieur, on n'est pas des cibles molles. À l'intérieur, on a le droit de remonter un peu au créneau sur les choses auxquelles on tient.
Alors, c'est justement aussi l'un des points communs de tous ces poèmes, c'est que à la fois il y a un constat, je parle de cicatrices, de blessures, certaines ne sont pas refermées, et par d'autres moments vous avez une espèce de volonté, comme le coup de rein, de se redresser en disant maintenant la tête haute, il faut se battre. Ou en tout cas,
oui,
rester digne.
Mais se battre, ça peut être faire ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que moi, je me souviens, malheureusement, la dernière fois qu'on s'est vu, Nagui, je ne sais pas si vous vous souvenez, à cette émission, c'était les attentats.
Comment l'oublier, oui.
C'était le jour.
Je pense que de continuer, comme vous le faites, vous, chaque jour, et moi avec vous aujourd'hui, de venir, de parler d'un peu de livres, un peu de musique, de rigoler, un billet d'humeur, de l'humour, ça fait partie de ce que je mets dans se battre. C'est-à-dire... c'est ce qui fait nos vies, aller boire un coup, discuter, avoir des copains,
et parler de sujets
et le faire de manière joyeuse, et on a le droit de parler de sexe, et on a le droit de parler de liberté, et on a le droit de
merci
tout ça.
Enfin Laurent, voilà. Enfin
donc
vous êtes bien tombé ici,
l'émission commence. C'est des
calottes. Parce que quand on dit se battre, on a l'impression qu'il faut forcément être moi j'ai l'impression que voilà, ça c'est se battre.
Mais
ça,
oui,
c'est...
non mais vous battez avec de la poésie, absolument, comme on peut le faire avec de l'humour aussi autour de cette table, et heureusement et en toute liberté.
Et Volinsky et Camus aimeraient qu'on soit du côté, comme je dis dans le poème, de la fesse joyeuse, et qu'on y reste.
Exactement. Quel enchaînement.
Transition.
Alors, après, c'est la fesse joyeuse. Lélila Camus, on peut
vous m'aurez tout fait aujourd'hui.
Au moins, c'est pas la fesse molle. Et là aussi, c'est un format intéressant.
Mais vraiment, vous m'aurez tout fait aujourd'hui, franchement.
Excusez-nous, Leïla, on respecte.
Laurent Godet, je vous sors de la promo un petit bol d'air. C'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître.
Oui, parce que maintenant, on vous connaît bien, Leïla. Oui,
là, forcément, tout de suite, on a un petit tableau. On commence avec un premier son pour vous, Laurent.
Lors du Maxi Procès, vous aviez 25-26 ans. Je voudrais savoir si vous suiviez à l'époque ce procès.
Io, fin da prima ancora di iscrivermi alla facoltà di giurisprudenza, seguivo con particolare attenzione e passione le vicende.
Deux voix, la vôtre, Laurent Godet, et celle de Nino Di Matteo, procureur de Palerme, engagé dans la lutte contre la mafia depuis plus de 20 ans, et condamné à mort par Cosa Nostra, la mafia napolitaine. Vous avez réalisé un documentaire, c'était en octobre 2014, de 22 minutes sur cet homme. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé face à lui, Laurent Godet ? Parce qu'on a parlé de l'Italie, du lien qui vous unit à ce pays, à cette région aussi. Comment...
Ça n'a pas été très facile parce que c'est un homme extrêmement protégé, qui est palermitain, qui travaille à Palerme. Donc en fait, il travaille dans la ville qui le menace en permanence, hein, d'une certaine manière. C'est un souvenir très fort pour moi, parce que c'est la première fois que je me retrouvais face à un type qui avait 7 gardes du corps. Et donc ça, rien que ça, ça met dans une ambiance assez sympa pour commencer l'entretien.
Ah, Nagui, vous a jamais invité chez lui.
C'est vrai.
Mais non, mais
j'aimerais
c'est un homme,
pas encore.
C'est un homme admirable, c'est un homme qui fait partie de ses...
Ah, pardon.
C'est un héros, quoi. Il y en a pas tant que... Enfin, si, il y en a pas mal, mais un héros des temps modernes, un type qui se bat pour des notions que nous, on a un peu oubliées, peut-être parce qu'elles nous semblent évidentes. Mm-hmm. La justice, la notion de d'État. D'espace public, de biens publics, toutes ces choses-là qui sont en fait fondamentales.
Et pour le coup, sa vie et celle de son entourage sont foutues.
Un peu. Ouais.
Et pourquoi vous avez envie de le rencontrer?
Il se sacrifie pour la justice.
Et pourquoi vous avez eu envie de le rencontrer, lui?
Parce que moi, j'ai toujours été bouleversé par l'histoire du juge Falcone, qui a été assassiné il y a quelques années, et de son frère d'armes, Paolo Borsellino, qui a été assassiné 3 mois après aussi. Et donc, je m'étais dit un jour, tiens, mais qui fait le boulot aujourd'hui? Et c'est comme ça que je suis tombé sur Nino Di Matteo.
Et vous avez des envies en ce moment d'aller rencontrer, parce que je crois que le réel est très important pour vous, on l'a évoqué hein, dans les voyages que vous faites, dans les rencontres aussi. S'il fallait, là, demain, rencontrer quelqu'un, vous rendre sur un lieu en particulier, ce serait qui et ce serait où?
Il y a une association que j'aime beaucoup et dont j'aimerais bien être un peu plus proche en termes d'aller voir un peu sur place comment ça se passe. C'est SOS Méditerranée, puisqu'on parlait tout à l'heure avec Jude. Voilà, c'est une association franco-allemande qui a décidé qu'un beau jour ça suffisait et que
ceux qui risquaient leur vie en traversant la Méditerranée devaient être.
Fallait pas attendre l'Europe,
Frontex, etc. Donc ils ont affrété un bateau et ils essaient de récupérer des gens. Je pense que c'est pour ça qu'il y a de la lumière aussi.
Vous avez un point commun avec Daniel Pénac aussi qui avait soutenu à ce micro.
C'est des gens qui sont bien, quoi, qui sont beaux et c'est là où je vais la chercher, moi, la lumière. C'est comme à Calais, hein, évidemment, c'est un peu déprimant et révoltant. La jungle de Calais, mais en même temps, moi j'ai vu l'Europe là-bas, l'Europe des volontaires. Il y avait des Anglais, il y avait des Allemands, il y avait des Belges, il y avait des gens qui arrivaient avec la fourgonnette.
Mais l'optimisme est encore plus beau quand on le fait naître dans des endroits justement aussi obscurs que ça. Sinon, ça serait trop simple d'être optimiste.
Et puis, du coup, il y a de l'admiration de ma part. C'est pas que accablé, c'est que je suis extrêmement admiratif de ces énergies-là, de ces gens qui, dans leur quotidien, font une place à cet engagement.
On poursuit avec un autre son pour vous, Laurent.
Je prie l'Assemblée de m'excuser si je ne m'exprime pas en français comme je l'aurais voulu. Je dirais mieux toute ma pensée avec toute la force de mon esprit et de mon cœur en parlant en amharique.
Nous sommes en juin 36 et c'est le début du discours devant la Société des Nations de l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Selassie, son pays.
Super document.
Pays qui.
J'ai jamais entendu sa voix.
Et voilà, c'était pour vous. La dernière fois, je vous avais écouté Aimé Césaire, et là, je me suis dit, on va choisir un autre homme. Son pays qui est là pour l'Éthiopie, à l'époque, en 36, avait su se préserver, a préservé son indépendance. Là, vient d'être envahi par l'Italie fasciste. Ça me fait penser à Così fan tutte de Christophe Honoré, qui avait mis en scène son opéra dans ces circonstances-là cet été. Pourquoi cette admiration pour ce personnage?
Alors c'est une admiration pour le personnage à l'endroit où vous le faites entendre, c'est-à-dire quand il est en exil face à Mussolini et qu'il prononce ce discours qui est absolument admirable devant la Société des Nations, pas pour faire la charité et dire aidez-moi, pour dire à la Société des Nations si vous m'aidez pas, en fait vous allez mourir. Et c'est exactement ce qui se passe, la Société des Nations ne survit pas à sa non-solidarité à l'Éthiopie. Ça fait écho avec ce qui se passe un peu dans notre monde aujourd'hui. On nous vend beaucoup la globalisation et tout ça, mais en même temps si les grands États n'ont pas de solidarité vis-à-vis des petits, il y a un moment donné où le concert des nations ça n'existera plus.
C'est quand même dingue comment on retient pas les leçons du passé. C'est fou, hein.
Et ce qu'il faut dire là pour cet extrait, ce discours, à partir du moment où il a prononcé ses premiers mots, il y a eu des cris, des huées des Italiens fascistes qui étaient présents, et c'était tellement tendu qu'ils ont dû éteindre la lumière. Tout d'un coup, tout le monde s'est retrouvé dans le noir. Imaginez un moment historique comme ça, afin de calmer les esprits, tellement ça jaillissait de partout, tellement on était dans un moment de crise.
Je sais pas qu'il y a eu l'idée, mais c'est une bonne idée en tout cas, parce que.
C'est un vrai moment d'histoire. Ouais. Voilà. Et je finis avec un cadeau, Laurent Godet. Je vous offre le catalogue de l'exposition Olga Picasso. En ce moment, c'est l'exposition qu'on peut voir au musée Picasso. C'est la première femme de Picasso. Ils ont vécu ensemble de 17 à 35. Et on voit à travers le travail de Picasso, puisqu'on sait que Picasso a été beaucoup inspiré et influencé par les femmes qui ont partagé sa vie. Là, c'était Olga.
Comme Nagui, d'ailleurs.
Et comme Nagui, notamment. Et puis comme vous aussi, dans votre œuvre.
On se détend.
On se détend. Mais comme vous aussi.
Tout le monde est au courant, Nagui.
Vous voulez revenir?
Tout le monde est au
courant.
Dommage.
Mais comme vous, finalement, Laurent Godet, l'Italie et le soleil d'Escorta. Donc, vous voyez, ça a joué. Là, il s'agit d'Olga Coclo, qui était danseuse au ballet russe. Ils sont tombés follement amoureux. Ils ont eu un enfant très rapidement. Mais
9 mois quand même. Hein.
Bah, c'est très rapide hein, quand même, on ne sait pas qui c'est. Et puis Picasso, c'était quand même un sacré coco, pardon. Il n'a pas été toujours Picasso, très, très tendre très très tendre avec les femmes.
C'est pas
les garçons,
ça,
et les garçons, doucement là.
Ça,
on reste gentil un minimum. Je finis mon cadeau pour Laurent Godet. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment dans les toiles, Picasso y insère sa mémoire personnelle. Quand on achète un tableau ou une photographie, on se dit tiens, c'est l'œuvre d'un maître, mais non, c'est une partie infime de la mémoire d'un homme, et c'est ce que je trouve merveilleux, que ce soit du Picasso ou pas du Picasso. Et c'est en ce moment donc au musée Picasso à Paris, c'est jusqu'au 3 septembre.
Merci, merci.
Voici Horace Andy avec Horse with No Name, une reprise évidemment de la chanson d'América.
On the first part of the journey, I was looking at all of life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly above and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of a sound. I've been to the desert with a horse with no name. It was good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, because there ain't no one for to give you the pain.
Andy, Horse with No Name. La bande originale de Laurent Godet aujourd'hui, c'était pour parler de son et de lumière, entre autres. On a parlé de beaucoup de choses. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, nous, ce fut le cas, comme le bon moment que nous avons pris en vous lisant de son et de lumière chez Actes Sud. Des excuses à présenter, Daniel.
Évidemment, désolé pour tous nos fidèles auditeurs qui ont été déstabilisés de ne pas entendre ce matin une bande originale tut-tut-tagada-poète-poète avec en fond sonore Christophe Maé. On a tenté l'intelligence et la sensibilité un peu grâce à Laurent et beaucoup grâce à moi. Ça nous a plu. On continue demain avec Dominique Farrugia.
Et Louise Bourgoin.
Désolé pour nos auditeurs qui vont devoir podcaster l'émission cet après-midi pour rechercher ce que Nagui aurait pu dire d'intelligent. Je vais vous éviter du boulot, les gars. Hein. Ce qu'il a dit d'intelligent, c'était hors antenne, comme il a dit à quel point il me trouvait excellent. Désolé pour tous nos auditeurs manchots qui rêvaient, comme Laurent Godet, de faire une carrière littéraire en écrivant avec la bouche. Il y a bien Philippe Croizon et Brigitte Lay, mais ça reste quand même un segment de niche. Désolé enfin pour la famille Picasso. Et ouais,
non,
ce matin réduit à Picasso le coco. Et oui, c'est très réducteur, je sais. Désolé, les gars.
Non, après rentrer de vacances,
merci Laurent Godet, portez-vous bien et à très
merci
bientôt
à vous,
en
merci
tout cas.
Beaucoup.
Et en effet, demain nous serons là avec Louise Bourgoin et Dominique Farrugia. Bonne journée sur Inter. Ce sont les carnets de campagne de Philippe.
Joyeux Pâques.
Joyeux Pâques.
Merci, joyeux Pâques, les amis. À demain.